C'est encore un petit peu Noël à la grande table sur France Culture. Nous recevons Christian Schelbourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française et littérature jeunesse. Vous enseignez les études culturelles à l'université de Lorraine. Vous dirigez le laboratoire littérature imaginaire société. Là, vous avez pu diriger des thèses sur la représentation de la famille dans Batman ou sur le girl power, les Spice Girls et les transformations du féminisme. Bref, la culture pop analysée avec les outils de l'université et surtout qui nous parle de la société d'aujourd'hui. Walt Disney est pour vous l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Et dans ce dernier ouvrage que vous signez aux éditions Les Impressions Nouvelles, Disney ou l'avenir en couleur, il s'agit d'explorer les enjeux esthétiques, économiques, politiques et même éthiques portés par les héritiers du grand Walt. Alors qu'on adore détester l'usine à rêve installée à Burbank, vous entreprenez l'étude de plus de 500 titres, des dessins animés, des films, des séries télévisées, mais aussi des attractions, des comédies musicales, des comics, des jeux vidéo, c'est tout ça, l'univers Disney, le Disneyverse comme vous l'appelez, pour arriver à la conclusion qu'en réalité, cet univers Disney porte les valeurs du progressisme, loin du conservatisme qu'on leur prête volontiers, Mickey, Minnie et tous leurs amis seraient à la pointe, cela vous écoutez, et à vous lire, du féminisme, de l'inclusion, des nouveaux modèles familiaux et du multiculturalisme. De tout ça, il va être question la demi-heure que nous allons passer ensemble, Christian Schelbourg, mais d'abord, un mot d'actualité, je veux bien entendu parler de Noël, C'est une fête qui est particulièrement importante pour Walt Disney. On le doit même, on peut dire, à une certaine représentation, à un certain imaginaire de Noël entièrement à celui de Walt Disney.
Oui, est-ce que c'est Dickens puis Disney.
Dickens puis Disney. Et on se rappelle de les fameux épisodes avec Mickey justement sur Scrooge, enfin sur le Noël, le Noël de Mickey. Voilà. Et donc, et pourquoi c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre la philosophie de Disney, cette fête de Noël?
Ah, alors bah déjà c'est la grande fête Disney hein, de toute évidence et pratiquement depuis l'origine, même si ça a été progressif, c'est un bon moment pour sortir des films, mais en fait ils sortent rarement. Finalement, c'est ça moi qui m'a un petit peu amusé en travaillant sur les dates de sortie, on s'aperçoit que notre mythe du Disney de Noël n'est pas tellement un Disney de Noël. Enfin bon, en Amérique ils sortent très souvent pour Thanksgiving, bon chez nous un petit peu plus pour Noël. Bah, c'est en fait fondamentalement, je pense que ce qui est au cœur de tout ça, c'est la question de l'esprit de Noël tel que il est formaté en grande partie par Charles Dickens dont je parlais tout à l'heure, évidemment qui a été repris à plusieurs reprises d'ailleurs hein, puisqu'on a on l'a avec Mickey et Minnie, on l'a également c'est le premier film en 3D hein, qu'ont sorti les studios, la réadaptation de Christmas Carol. Alors fondamentalement, c'est l'esprit de réconciliation. C'est l'esprit de réconciliation, c'est l'espoir aussi. Je crois fondamentalement, je pense que le problème de Noël par rapport à Disney, c'est que ça représente, ça synthétise très bien ces valeurs de conserver l'espoir, la construction de l'avenir, se retrouver en famille, parce que c'est ces deux dimensions-là qui sont de toute façon fondamentales dans les valeurs Disney. D'un côté la famille et de l'autre l'optimisme. Ben Noël, c'est un peu tout ça, avec de la neige, évidemment artificielle dans les parcs, puisque les parcs américains, c'est le printemps hein, là-bas.
Enfin, Orlando,
il y a un film d'ailleurs qui, je me rappelle plus le titre de celui-là, mais où l'histoire justement, mais qui neige à Burbank, c'est inimaginable, quoi. Donc voilà, c'est une partie des choses.
Vous dites dans votre ouvrage Disney ou l'avenir en couleur, Christian Schelbourg, que Noël dans l'univers Disney exonère l'hiver de ses fautes.
Ah oui, ça c'est quelque chose là pour le coup de profond. Enfin pas de ce que je dis, mais chez Disney, c'est que bon, on a ces souvenirs de Walt extrêmement, enfin souffrant comme enfant lorsqu'il livrait les journaux. C'est repris dans Saving Mr. Banks. On a la citation complète, mais c'est une citation réelle de Walt racontant ses livraisons de journaux en hiver avec la neige qui le recouvre et tout ça. Donc il y avait chez lui une véritable douleur de l'hiver. Et de toute évidence, ce qui est vraiment frappant, c'est cette façon dont la neige de Noël est une neige qui n'est pas froide. La glace de Noël est une glace qui ne gèle pas. Et dès lors que ça gèle, dès lors que la neige commence à être froide, alors c'est le vrai hiver. C'est pas l'hiver Disney. On a ça un petit peu dans le dernier, dans le Casse-Noisette, où à un moment on voit l'héroïne Marine qui quand même se serre les bras comme si elle avait un peu froid. Ça, c'est jamais très bon signe. Quand on commence à avoir froid chez Disney, c'est pas bon.
C'est pas très bon signe. Je le disais, Christian Chelbon, on adore détester Disney. C'est un univers qui véhicule évidemment beaucoup de représentations très positives, mais peut-être un peu rose bonbon, d'autres plus négatives, et notamment dans cette dimension grosse machine commerciale. Et ce qu'on entend dans cette idée autour de Noël, c'est ce mélange finalement d'une approche très commerciale. Noël, c'est une fête où on vend bien, on vend des films, on vend la parade dans les parcs d'attractions, on vend évidemment des jouets, beaucoup de jouets, des costumes, enfin voilà, que sais-je. Et donc il y a cette dimension commerciale, mais il y a aussi cette dimension philosophique et culturelle. C'est une tension permanente. On se demande toujours un petit peu avec Disney si Disney formate la culture, nos représentations, ou si finalement ce n'est qu'une espèce de caisse de résonance et qui profite pour des raisons commerciales, des évolutions de ce qui se passe dans la société.
Bon, ça c'est d'un point de vue purement scientifique, c'était ça qui était intéressant. Grosso modo, on va dire 90% de la critique disneyienne consiste à dire que c'est capitaliste. Quand on a dit ça, à la fois on a tout dit puis on n'a rien dit, parce qu'évidemment, Disney fait de l'argent, ça c'est incontestable. Le vrai problème, c'est à partir du moment où une usine de cette taille-là fait de l'argent, elle fait de l'argent en vendant du rêve, hein, ce que on retient sous le terme usine à rêve. Bon, pas de problème. Mais vous ne pouvez pas vendre n'importe quel rêve au grand public. C'est-à-dire que pour vendre du rêve au grand public, il faut que ce rêve-là soit celui du plus grand nombre. Et donc, d'une certaine manière, Disney est significatif d'un point de vue culturel parce que c'est une grande machine capitaliste. Dans la mesure où il faut que la firme se tienne en permanence, s'ajuste en permanence au mouvement de l'opinion, à ce que l'opinion est capable d'accepter. Et moi, en tant que qu'enseignant d'études culturelles, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'analyser cela, d'analyser ce point de bascule où là on se vend, puis là on se vend plus, de façon à voir ce que notre société était capable de rêver de plus clairement.
Ben justement, ce que vous dites là, c'est au cœur du discours d'un des personnages qui incarne le Disney d'aujourd'hui, c'est Michael Eisner.
On me prête bien trop de mérite pour les réussites et bien trop de responsabilité pour les échecs de l'entreprise. Ni l'un ni l'autre n'est juste. Oui, j'exprime mon opinion si on me le demande. J'essaye de savoir un peu ce qu'il se passe. Mais pas autant que Walt Disney. Lui, il allait dans les bureaux des artistes, à la nuit tombée, pour regarder ce qu'ils dessinaient. Il fouillait leurs poubelles pour voir s'ils n'avaient rien jeté de bon. Je ne fais pas ça.
Est-ce que l'esprit de Walt Disney hante cette entreprise ?
Non, je ne crois pas. Quand je suis arrivé, il n'était pas mort depuis si longtemps et beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce que Walt Disney aurait fait dans cette situation ? Et je voyais que c'était très déstabilisant. Ils ne suivaient pas leur instinct, ils suivaient quelque chose qui avait marché par le passé. Mais ce que Walt ferait serait sûrement quelque chose de différent de ce qu'ils avaient fait par le passé et qu'ils n'auraient pas pu prévoir. Et donc, je ne me suis pas posé la question de ce que Walt aurait fait. Et j'espère que quand je ne suis pas impliqué dans un projet, ils ne se disent pas « qu'est-ce que Michael ferait ?» Et ils font ce qu'ils veulent. Ils devraient faire ce qu'ils veulent.
Michael Eisner, PDG ou ancien PDG de Walt Disney, c'est tout.
Oui, c'est l'ancien PDG, celui qui est PDG de 1984 à 2005.
Et donc, dans cette période où Walt Disney, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais a connu des difficultés commerciales avant de devenir la grande machine que c'est aujourd'hui, en tout cas, qui a dû se réinventer à ce moment-là. C'est ce que vous montrez aussi, Christian Chelbon, dans ce livre, Un Disney ou l'avenir en couleur, qui est à la fois une réflexion, on va dire, sur la dimension sociale, politique du propos dans les livres, les films de Walt Disney, mais qui aussi aborde cette dimension de la stratégie commerciale de Walt Disney Company.
Oui, alors Eisner, c'est le grand sauveur, hein, puisque en fait, bon, après la mort de Walt Disney, la compagnie qui à l'époque ne s'appelle pas la Walt Disney Company, mais les studios Disney est en perte de vitesse, hein, très clairement. Bon, on connaît tous évidemment l'anecdote de Taram et le chaudron magique qui fait un four. Il y a pas d'autre mot, alors que c'est un très bon dessin animé par ailleurs. Mais bon, toujours est-il que il arrive à un moment où Disney est menacé de vente à la découpe. Les parcs sont rentables, mais plus le cinéma. Et donc, c'est le sauveur au sens strict. Cet homme arrive, Disney vaut 2 milliards, il repart, il en vaut 48. Hein, c'est pas, je veux dire, on a véritablement un capitaine d'entreprise comme il y en a peu, même dans l'histoire d'Hollywood. Je crois même que c'est le seul à ce point-là. Toujours est-il que, eh ben, il va repartir dans des circonstances également très sombres avec Roy Disney qui est comment, tout à fait remonté contre lui parce que contrairement à ce qu'il dit là dans l'interview, il se prend pour Walt à la fin. Bien sûr. En fait, ce qui a été le déclencheur, le révélateur d'une espèce de pathologie, c'est le moment où Michael Eisner veut présenter le Disneyland TV Show et donc prendre le rôle que prenait Walt à la télévision. Et ça a beaucoup déplu à la famille. Et
enfin, c'est
un des éléments. Hein, mais voilà, oui, voilà, il incarne Walt. Et bon, c'était irrecevable. Et puis en plus de ça, il faut reconnaître que dans la fin des années 90, Disney est à nouveau en difficulté. Financière. C'est toujours, hein, c'est les montagnes russes. Hein. Moi, je me suis amusé à suivre le New York Stock Exchange pendant tout le temps où j'ai écrit le livre. J'ai encore regardé ce matin. Disney a perdu 20 milliards depuis que j'ai écrit le livre. Oui, ils ont perdu 20 milliards. Alors, c'est normal, parce que ça, c'était ce matin. Donc, ça s'est effondré de toute façon dans le week-end. Mais pour vous donner un exemple, alors qu'on avait fait grand bruit du moment où Netflix a dépassé Disney cet été, en capitalisation, bon là, Netflix est repassé à 40 milliards en dessous. Donc on est véritablement dans un univers qui est un univers extrêmement mouvant, que nous, on mesure très très peu à notre place.
Et un univers tentaculaire, parce que ce dont on n'est pas forcément conscient, c'est que Disney, il y a la pointe émergée de l'iceberg, évidemment, ces films de Noël notamment, oui. Ou les parcs à thème dont vous avez déjà parlé, mais Disney, c'est surtout depuis le deal du siècle, hein, depuis que Disney a absorbé la Fox, c'est 40%, je crois, du box-office mondial, ce sont des productions Disney.
Alors, en proportion du box-office mondial, oui, éventuellement. Là, pour le coup, j'ai pas ce chiffre-là.
J'avais regardé.
Mais pour vous donner une idée, hein, pas plus tard que hier ou avant-hier, il y avait dans le Washington Post un très bon article sur la crise de du cinéma, où en fait, ce qui s'avère, c'est que au jour d'aujourd'hui, on va dire que grosso modo, le cinéma se consomme en streaming, essentiellement sur Netflix, et que les seuls films qui véritablement font des entrées, c'est les films Disney. Donc, je veux dire, sinon, évidemment,
il faut rappeler que Marvel, par exemple, la franchise Marvel, c'est Disney.
C'est extraordinaire. C'est une machine. Oui, Marvel, c'est Disney. À la télévision, parce que ça, on l'oublie toujours, c'est ce qui rapporte le plus à la compagnie, c'est la télévision. Un réseau comme le réseau ABC, c'est également tentaculaire. Donc, oui, on a une hydre, hein, à plusieurs têtes, enfin, à quatre grandes têtes, à vrai dire. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une unité. Alors, une unité, il n'y a pas évidemment pas de grands contrôles comme d'Antron qui décide de ce qu'il faut dire, mais d'une certaine manière, comme tout ce monde respecte plus ou moins les mêmes valeurs, on arrive à trouver une unité. Et ça, c'est assez fantastique.
Alors, on en arrive, Christian Chilbois, au cœur de votre ouvrage, justement, sur ces valeurs portées par Disney, par cet univers Disney, par ces multivers, presque, on pourrait dire, Disney. Puisque, au cœur de votre recherche, il y a cette conviction selon laquelle la relation complexe que l'industrie créative est obligée d'entretenir avec le public, en fait, une formidable, une sismographie de l'histoire des idées.
Tout à fait. On voit très très bien à quoi le XXe siècle a cru et à quoi le XXIe. Alors, mon livre est surtout consacré au XXIe siècle, hein, puisqu'en fait, j'analyse sur les 500 et quelques items, j'analyse essentiellement des items qui datent de la période Robert Iger, c'est-à-dire à partir de 2005. Hein, donc vraiment la période contemporaine. Mais oui, on a affaire à quelque chose de à la fois extrêmement diversifié et à la fois très unifié. Alors ces valeurs-là, le plus souvent, ce qu'on retient de Disney, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la mièvrerie. Elle tient essentiellement à ce qu'on appelle les grands classiques animés, c'est-à-dire les films de Noël. Bon, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que ce que Disney donne à ce moment-là, c'est ce qui doit être le plus consensuel. Donc c'est pas là que ça bouge le plus, c'est pas là que les valeurs bougent le plus. Elles bougent énormément en revanche sur ABC, mais également, et ça on le voit pas assez en fait, elles bougent également énormément sur Disney Channel ou sur Disney XD. C'est là notamment en termes d'inclusivité et de diversité. Par exemple, la première héroïne noire dans une série pour enfants, c'est Docteur Lapluche en français. C'est juste avant Scandale scandale et la même chose sur ABC.
Alors scandale, voilà, justement, on en arrive peut-être à ce qui pourrait être une limite. En tout cas, il faut que vous nous expliquiez un petit peu en quoi on peut rapprocher cette série, un scandale qui sur une spin doctor qui est proche du président des États-Unis, qui est même la maîtresse du président des États-Unis. Et donc, ce sont des épisodes qui sont, qui renvoient plus à l'imaginaire des séries telles qu'elles ont connu une révolution au tournant des années 2000. Mmh. Vous rappelez aussi que, on va dire, dans l'escarcelle de Disney, on trouve des séries comme Lost, comme Desperate Housewives ou comme Grey's Anatomy. Donc Shonda Rhimes, qui est cette showrunner très très importante et très connue aux États-Unis, qui pousse un certain nombre de thèmes en termes d'égalité raciale, en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a cet épisode connu de Christina Yang, qui est l'une des personnages qui avorte et qui a fait beaucoup parler. Et donc vous mettez ça en balance, en quelque sorte, avec d'autres types de productions Disney. Et on se dit, est-ce que vous n'étirez pas un petit peu trop les choses? C'est-à-dire, en quoi on peut vraiment faire le lien, outre la relation commerciale, on va dire, entre les sociétés qui produisent ces différents contenus, en quoi on peut vraiment faire le lien pour dire Disney, c'est aussi ça?
Alors, en fait, si vous regardez bien, il ne m'arrive jamais de comparer, à proprement parler, un dessin animé pour la jeunesse et une série, et puis ici, surtout Shonda Rhimes, qui vraiment est quelqu'un d'extrêmement progressiste. Il ne s'agit pas de les mettre en balance. De mon point de vue, c'est véritablement essayer, à partir de ce que Disney est capable de produire, de comprendre dans quel sens on pousse la société à évoluer. C'est-à-dire que, et même pas véritablement la société a évolué, mais ce que la société est capable d'entendre et essayer de flatter, on va dire, ce qui pour Disney va être le meilleur côté de ce qu'on peut faire. Bon. Et de ce point de vue-là, il n'y a certes pas d'unité à proprement parler, ABC et les studios, c'est deux choses qui n'ont à peu près rien à voir. Mais il y a de ces échos étranges. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, la première héroïne noire, c'est Doc McStuffin. C'est quelques mois avant le lancement de Scandale. Donc on voit bien comment, d'une
dont
certaine manière,
aussi,
voilà, c'est cette machine qui finit par penser de la même manière parce que la société est la même. Alors c'est pas le même public puisque c'est des publics d'âge différents notamment, mais il y a une unité.
Oui, mais quand Disney rachète Miramax, la société des frères Weinstein, et donc devient productrice des films de Tarantino, ça fait pas de Tarantino un parangon de l'esprit Disney.
Oh, ça c'est toujours bien. Non, Tarantino non. Après il faut être extrêmement circonspect avec tout ça. Nous avons une conception intellectuelle de Disney qui est systématiquement dans le rejet de ce genre de choses. Je sais que je connais beaucoup de spécialistes de Tim Burton qui vont dire Tim Burton c'est pas Disney. Tim Burton
c'est X fois
Disney. Bon. Donc c'est pas Tarantino c'est un petit peu bon. L'affaire des frères Weinstein et de Miramax c'est un petit peu spécial parce qu'il faut savoir que chez Miramax il y a une règle, c'est que jusqu'à 60 millions Harvey Weinstein peut signer seul sans en référer à Disney, à partir de 60 millions, il ne peut plus. C'est comme ça que Michael Moore a pu faire son reportage, son documentaire chez Miramax, alors qu'évidemment, Michael Eisner ne voulait absolument pas.
Voilà, qui est dit sur ces liens qui sont quand même un peu distendus entre les différents pôles de l'univers Disney, mais qui, selon vous, se retrouvent dans une certaine conscience commune de forger des valeurs, un système de représentation. C'est-à-dire que c'est pas du tout, à vous lire Christian Schellbourg, c'est pas du tout une conséquence inattendue du travail de Disney, cette façon de forger une philosophie des valeurs dont il faudrait les définir maintenant.
Non, c'est pas du tout inattendu et c'est même à bien des égards réfléchi à la base. Par exemple, dans le cas de Marvel, il est très clair qu'au moment où ils rachètent Marvel, ils savent parfaitement ce qu'ils rachètent. Et d'ailleurs, quand on voit c'est Iron Man 2 qui est produit avant le rachat, ils préparent complètement le rachat avec le personnage de Walt qui apparaît ou quasiment. Bon, qui est en l'occurrence joué par le père de Tony Stark, hein, qui joue complètement à Walt dans le bureau, qui imite complètement celui du Disneyland TV Show. Donc ça c'est parfaitement calculé. Lorsqu'il rachète la licence Star Wars, c'est pareil. Que la Force soit avec toi, c'est tout à fait du Disney. Donc il y a ça. Je crois sincèrement que Il faut tout simplement penser aussi que ce dont Disney se fait l'écho n'est rien d'autre que une opinion dominante dans l'intelligentsia américaine. Ces gens-là ne sortent pas de n'importe où. Ils sortent, bon, pour partie du CalArts, mais ils sortent pour beaucoup des meilleures universités américaines. C'est cet esprit-là qu'ils diffusent. Donc, si vous voulez, ce que je dis de Disney est valable pour une partie importante de l'opinion publique américaine. C'est d'ailleurs assez rassurant.
Le CalArts, c'est évidemment cette université des arts qui est en Californie. CalArts, c'est de là que vient le nom.
Tout à fait.
France Culture. La Grande Table. Raphaël Bourgois.
13h16 sur France Culture, on discute aujourd'hui avec Christian Schellbourg, auteur de Disney ou l'avenir en couleur, de ce livre qui nous présente la version philosophique de Disney, ce que Disney peut nous dire de notre société. Alors il faut peut-être justement s'intéresser un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, Christian Schellbourg, au contenu de ces valeurs qui sont celles portées par Disney. Vous les décrivez comme une forme de retour aux sources du libéralisme politique.
Tout à fait. On pourrait donner deux grands principes. Le principe qui est avant l'élection de Trump, c'est véritablement ce que j'appelle le libéralisme humaniste, hein, celui vraiment des pères fondateurs. Et ça, c'est obsessionnel chez Disney. Ça date d'ailleurs de l'époque de Walt. À nouveau, le Hall of Presidents dans les parcs. Il y a vraiment un attachement aux valeurs fondatrices de l'Amérique, valeurs fondatrices qui apparaissent dévoyées. Alors, pour les auditeurs qui ont vu Mary Poppins Returns,
le tout dernier film,
vous avez, c'est très bien montré à la fin, puisque vous avez le banquier qui veut absolument ruiner les enfants Banks et leur prendre leur maison. Ça, c'est le méchant libéralisme. Et puis vous avez celui qui va venir, qui en plus est joué par Dick Van Dyke, qui est l'ancien ramoneur du vieux Mary Poppins, qui lui est le vieux banquier qui, au contraire, va être un banquier humaniste et leur rendre leur maison et leur rendre leur confort de vie et permettre la fin heureuse. Sachant que cette notion de fin heureuse est vraiment
le central.
C'est vraiment la
donnée
majeure.
Tout ce vers quoi tend les productions Disney.
Tout à fait. Et on pourra revenir d'ailleurs sur le rôle de la féerie dans tout ça, parce que c'est cela que Disney retient de la féerie. Toujours est-il que ce libéralisme humaniste-là, c'est celui qui véritablement unifie la visée politique de Disney. Et puis, il y a une prise de conscience qui est remarquable après Trump, mais qui est déjà présente avant, c'est la notion de libéralisme post-identitaire. Alors ça, c'est quelque chose qui va être défini dans la presse américaine, grosso modo, en 2016, au moment de l'élection. Et là, véritablement, ils vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que il s'agit de dépasser cette question des identités. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir se réaliser, chacun doit pouvoir réaliser ses vœux, chacun doit pouvoir réaliser ses rêves, sans que ce qu'il est, que ce soit du point de vue du genre, du point de vue de l'ethnie, du point de vue du handicap éventuellement. Maintenant, on a notamment dans la série Quantico un personnage qui est devenu sourd et donc qui parle la langue des signes. Donc, si vous voulez, il faut véritablement que ce que vous êtes ne fasse à aucun moment barrage à vos rêves. Ça, c'est le grand principe.
Mais ce qui pousse les choses très très loin, puisqu'on a vu des accusations, notamment d'appropriation culturelle faites à Disney, ou même, j'ai découvert ça en lisant votre livre, Christian Schellbourg, des associations LGBT plus, comme on dit désormais, demander à grand renfort de pétitions et de tribunes à Disney d'enfin faire le coming out d'Elsa, la principale actrice de La Reine des Neiges. Donc c'est la Reine des Neiges, voilà, qui est une femme seule et donc qui...
Ah oui, c'est la princesse sans prince charmant. Alors en fait, ils le font parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils le font parce qu'ils savent très bien à quelle oreille ils s'adressent. Hein. Et c'est vrai que il y a ce... Alors ça ne sera pas fait, ça sera évidemment pas le cas, enfin probablement pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ces choses-là évoluent très lentement. Mais il est évident qu'ils savent qu'ils ont dans les studios des oreilles tout à fait amies sur le gay friendly. Et donc donc on peut le faire. En plus de ça, ça donne évidemment une coloration, je dirais, à bien des égards, ça donne aussi une coloration aux studios eux-mêmes, hein, qui s'en revendiquent. Donc c'est tout à fait normal. Non, après le nombre de polémiques, comme vous dites, l'appropriation culturelle, je dirais volontiers, il s'est largement approprié les frères Grimm. On peut le faire comme ça. Le Disney bashing, c'est une polémique par jour, ou à peu près, bon, dans la presse. Donc, à un moment, il faut arrêter de regarder. Il faut savoir que, à la base, c'est quelque chose qui a été lancé par des ligues chrétiennes, fondamentalistes, hein, au moment, parce que le rachat d'ABC s'est fait dans des circonstances, non, de Fox Family, d'ABC Family, s'est fait dans des circonstances qui ont vraiment fortement déplu aux intégristes, dont c'était une chaîne.
C'était une chaîne chrétienne, hein, une ABC, chaîne chrétienne, faut le dire, voilà, pour les auditeurs français qui ne le savent pas forcément.
C'est pas ABC, c'est Family, c'était Fox Family à la base.
Oui, donc évidemment. Mais alors, puisqu'on est dans le Disney bashing, enfin, ne soyons pas trop dans le bashing non plus, mais il s'agit, et puis essayons de ne pas trop utiliser de termes anglais, sinon on va se faire taper sur les doigts par nos auditeurs, mais il y a une autre critique, et qui là est plus un reflet aussi des débats, qui sont les débats contemporains, Christian Schellbourg, qui est celle du politiquement correct, ah oui. Political correctness, évidemment. Et il y a une réponse en dessin animé chez Disney, qui est Zootopia, qui est un film qui, justement, explicite complètement quelle est la vision, pourquoi la political correctness, c'est quelque chose de bien, pour le dire bêtement.
Alors, il y a tout, il y a aussi chez eux une critique par moment des excès, hein, de la political correctness. Mais si on veut comprendre...
Rappelez-nous l'histoire de Zootopia.
Alors, l'histoire de Zootopia, c'est très simple, c'est une petite lapine qui veut devenir policier. Et évidemment, il y a jamais eu de lapine policière, tout simplement parce qu'on est dans un milieu où il y a l'opposition entre les prédateurs d'un côté et les proies de l'autre. Évidemment, on reconnaît très bien notre monde, et c'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves. Elle va y parvenir. Ce qui est intéressant dans Zootopia, si on veut le synthétiser, c'est la scène d'ouverture. Parce que la scène d'ouverture, on a les animaux enfants qui joue la scène. Et l'idée, c'est véritablement que dans le monde, il y a des proies et des prédateurs à l'état de nature. Et le progrès des mentalités est de permettre qu'ils vivent ensemble. Et Zootopia y arrive. Alors, je vais pas raconter Zootopia. Faut laisser un peu de suspense. Voilà, je ne vais pas gâcher la fin. Mais, fondamentalement, l'idée, c'est d'arriver à faire vivre tout ce monde-là ensemble, que chacun préserve son identité, mais que cette identité soit respectée par tous les autres.
Alors, on pourrait se dire, Christian Schellbourg, puisque c'est quand même une mode désormais, ou en tout cas une tendance de la recherche, d'aller s'emparer d'objets très très pop, populaires en tout cas, et que c'est un petit peu un gadget. Mais vous montrez à quel point il y a une possibilité d'avoir une vraie approche intellectuelle d'objets comme celui de Walt Disney, et notamment quand on pose la question des structures familiales, la famille, c'est au cœur du projet Disney.
Bientôt sur Disney Channel, découvre la nouvelle génération de méchants Disney. Jay, fils de Jafar.
Qu'est-ce que tu fais ?
Ça s'appelle du vol. C'est comme si je m'achetais tout ce que je veux, sauf que c'est gratuit.
Evie, fille de la méchante reine.
Sur l'île, toutes les filles sont aussi mignonnes que toi.
J'aime penser que moi seule ai beauté parfaite et pure.
Carlos, fils de Cruella d'enfer.
Ce truc est un tueur ! C'est un horrible animal enragé qui chasse en meute !
Qui t'a dit un truc pareil ?
Ma mère !
Et Mal, fille de Maléfique. La méchanceté coule dans leurs veines.
Sortilège qui enchante les coiffures, redonne à Jane son affreuse chevelure. J'ai encore plein de sorts en réserve.
À ton avis, nos parents vont réagir comment s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ?
Je crois qu'ils seront fiers qu'on ait fait de notre mieux.
Tu crois ?
Non, en réalité, je crois qu'on a du souci à se faire.
Descendant, le nouveau Disney Channel Original Movie arrive bientôt sur Disney Channel.
Descendant, ça vous aura peut-être échappé si vous n'avez pas des enfants en âge de regarder ce film. Mais vous avez tout vu, Christian Schellbourg, pour préparer. J'avoue que moi, s'il m'avait échappé celui-ci. Et donc, ce sont les descendants, les enfants des méchants qui sont les personnages centraux de ce film, réhabilités par le fils, je crois, de la Belle et de la Bête.
Tout à fait.
Qui reviennent pour un teen movie
Pour deux teen movies et une web série,
donc une vraie franchise Disney, comme on dit désormais, Christian Schellbourg, et qui montre que voilà, la famille moderne, en tout cas le souci de la famille, est toujours au cœur des productions Disney.
C'est intéressant, Descendant, parce que Descendant, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité familiale. L'idée, c'est que les enfants des méchants sont définitivement des méchants. Donc on a enfermé les méchants sur une île, pendant que et comme ça les bons peuvent vivre à l'abri. Et ce qu'on voit bien, c'est d'abord cette fascination que va exercer que vont exercer les bons. C'est également dans le deuxième le fait que il y a tout de même cette nostalgie de ses origines, mais que tout ça finit effectivement par être réhabilité parce que tout de même il est plus d'une certaine manière, il est tout simplement plus profitable d'être bon que méchant. C'est un peu ça l'idée.
Et alors dans ces structures de familiales telles qu'elles sont montrées par Disney, vous montrez l'importance notamment, on se pose toujours la question de savoir pourquoi il y a une telle importance des oncles chez Disney. Pourquoi est-ce que c'est oncle Donald, oncle Picsou, par exemple, vous en faites une lecture à travers Lévi-Strauss et vous montrez que ça prend racine véritablement dans les structures anthropologiques très très profondes. Christian Schellbourg, il y a aussi la famille moderne, de Modern Family, c'est le titre d'une série diffusée par ABC dans laquelle on a un père qui s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, qui est aussi latino. On a un fils homosexuel qui est marié et qui a une enfant adoptée. Enfin voilà, il y a toutes ces nouvelles structures de la famille qui sont mises en avant et asiatiques. Voilà, et donc on est sur ABC. On l'a dit tout à l'heure, une chaîne chrétienne à l'origine.
Non, alors c'est pas ABC hein, qui est une chaîne chrétienne. Et ABC, c'est vraiment c'était Fox Family qui est devenu ensuite ABC Family. Bon, pour des raisons à mon avis, je suis pas dans le secret des dieux, mais tout simplement pour faire une unité du réseau, donc ils ont rebaptisé. Non, ABC à l'origine, c'est une chaîne formidable, ABC. C'est la chaîne, on va dire que c'est grosso modo la chaîne Disney depuis l'origine, même si ça n'est pas le cas, mais c'est la chaîne qui a permis de financer Disneyland, hein, puisque au moment où Walt veut créer son parc, son frère ne veut pas lui donner les fonds, son frère appelle les banquiers américains pour qu'ils n'abondent pas, et c'est simplement le fondateur d'ABC à l'époque qui appelle Walt et qui lui dit, écoutez, moi je peux peut-être vous proposer quelque chose, et c'est comme ça que ça nous donnera Davy Crockett, ça nous donnera Zorro, et le Disneyland TV Show, et c'est ça qui va financer Disneyland. Alors ensuite, ABC est quelque chose d'indépendant, mais il y a énormément de programmes qui sont des programmes Disney sur ABC jusqu'au rachat en 96. Le rachat est en 96 uniquement parce que c'est autorisé légalement à partir de 95. Hein. Sinon, ils auraient été rachetés depuis très longtemps.
Vous allez même jusqu'à citer le sociologue Eric Fassin en parlant de démocratie sexuelle à propos de la chaîne. C'est-à-dire la reconnaissance d'une légitimité des valeurs politiques telles que la liberté, l'égalité, dans le débat sur le genre, les sexualités. Il nous reste quelques instants seulement. Est-ce qu'on pourrait avoir un président des États-Unis qui serait issu de Disney, finalement, de ses valeurs et...
Alors, la polémique, qui n'est pas une polémique d'ailleurs, mais une information réellement. Robert Iger nous a appris, donc le PDG de Disney, nous a appris qu'il avait pensé à se présenter aux prochaines présidentielles américaines jusqu'au moment du rachat de la Fox. Alors ça n'est plus d'actualité, hein, puisque tout simplement maintenant, ils ont racheté la Fox, il a re-signé pour jusqu'en 2021, ce qui ira un petit peu au-delà. Cela dit, le problème de sa succession se posera à un moment ou à un autre. Toujours est-il qu'on est en Amérique, dans une multinationale, tout est d'une certaine manière, ces choses-là sont transparentes pour la bonne et simple raison que les marchés doivent être informés. Et oui, Robert Iger y a pensé. Je pense que c'est pas tellement étonnant dans une société où le monde du show business et le monde de la politique sont tout de même très proches. Hein. Donc voilà, bah, c'est le patron de la plus grosse multinationale culturelle. Oui, il y a pensé.
On a un président issu de la télé-réalité. Pourquoi pas un président issu d'Hollywood ?
Je pense qu'on n'y aurait pas perdu.
J'ai dit un président issu d'Hollywood, je pense à Ronald Reagan, évidemment. Alors, vous voyez, c'est les liens sont permanents. Merci beaucoup Christian Schellbourg, justement pour analyser tous ces liens politiques, sociaux, culturels, philosophiques, éthiques même, il faut le dire, entre Disney et notre société. Disney ou l'avenir en couleur, c'est votre ouvrage paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon, Djergaillan, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, et Jeanne Copé et Jordan Joseph, qui sont les stagiaire à la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Heilig, à la prise de son Kevin Boisseau. Dans quelques instants, les pieds sur terre.